Au fil des pages. Au fil des pages, une émission de la rédaction de Canal Académie.
On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Au fil des pages, je vous propose aujourd'hui de découvrir le dictionnaire de l'Antiquité, réalisé sous la direction de Jean Leclan, publié au PUF en octobre 2005. Ce dictionnaire est une œuvre majeure qui présente et interroge les civilisations antiques dans leur diversité. L'Antiquité y est présentée sous toutes ses facettes, avec la volonté de rapprocher le lecteur d'aujourd'hui du réel d'hier en s'appuyant sur les découvertes les plus récentes. Il s'agit d'un outil indispensable pour les historiens et les passionnés de l'Antiquité. 550 auteurs y ont collaboré. Le lecteur assurément trouvera satisfaction parmi les 3200 articles qui lui sont proposés, un index de 5000 entrées, au total un ouvrage de plus de 2400 pages. Le dictionnaire de l'Antiquité, tel est son titre, offre une vue d'ensemble dans le temps et dans l'espace des civilisations anciennes qui se sont développées autour du bassin méditerranéen du 4e millénaire avant Jésus-Christ au 6e siècle après Jésus-Christ. Je pourrais citer parmi les cultures présentées l'Égypte ancienne, la Grèce antique, la civilisation romaine, sans oublier les civilisations de Mésopotamie, du Levant, d'Anatolie, d'Europe occidentale et centrale. L'approche thématique exceptionnellement riche traite des institutions, des savoirs, des événements historiques, des questions d'environnement et de société, des comportements, des relations internationales. Le dictionnaire de l'Antiquité, sous la direction de Jean Leclan, publié aux presses universitaires, existe en deux versions. Une version grand format avec un tirage limité dans la collection Grand Dictionnaire. Et puis, il existe également en version poche dans la collection Quadrige. Pour ce voyage au cœur des civilisations anciennes, j'accueille Jean Leclan qui a dirigé l'ouvrage. Jean Leclan, bonjour.
Bonjour.
Jean Leclan, vous êtes un éminent égyptologue, professeur honoraire au Collège de France, secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres, membre de très nombreuses sociétés savantes. La liste de vos publications est très impressionnante et je renvoie nos auditeurs au site internet de l'Académie des inscriptions et belles-lettres pour découvrir tous ces ouvrages. Mais nous savons tous que Saqqara, Thèbes ou Karnak n'ont pas de secret pour vous. Vous avez mené de nombreuses missions d'archéologie, mais je vous accueille aujourd'hui pour nous présenter ce très bel ouvrage qu'on peut qualifier de monumental. Jean Leclan, quelles raisons vous ont poussé à vous lancer dans la rédaction de ce dictionnaire ?
Bien, écoutez, face à tous ces secrets du monde antique, j'ai pensé qu'il était bon, effectivement, qu'il y ait eu un dictionnaire dans la série des grands dictionnaires des presses universitaires de France. Et j'ai pensé que c'était une tâche, un devoir de s'y mettre, parce que l'Antiquité, c'est aussi faire participer notre monde contemporain, que ce soit les jeunes gens, les enseignants, et d'une manière générale, le public cultivé, leur faire prendre conscience qu'ils viennent de longues racines et ensuite d'épanouissements divers, et qu'il faut, il y a un certain nombre de points de repère. La forme naturellement du dictionnaire permet des points d'accroche en quelque sorte. Il y a des séries de mots par lesquels il faut passer, de mots clés. Pour en faire vraiment un instrument de culture valable, il faut, entre tous ces points de repère, prévoir des cheminements possibles. Il y a de très nombreux corrélats qui sont indiqués, qui vous permettent de passer à partir d'un article à d'autres qui vous éclairent un certain nombre de points connexes. Et il y a aussi, d'ailleurs, le voyage à l'aventure, parce que j'espère beaucoup que certains brusquement tireront le dictionnaire, puis en l'ouvrant, un mot retiendra leur attention. En tout cas, c'était offrir 5 millénaires, vraiment tenant dans les deux mains. Alors là, il y a un truc technique. Quand j'ai reçu les épreuves à corriger, je n'ai pas cru qu'on pourrait faire tenir ça en un volume. Oui. Quand j'ai dit au président, c'est la matière de deux volumes, oui, on a souri, on m'a dit non, car nous avons une qualité de papier qui nous permet une édition, une impression irréprochable, recto verso, avec les feuilles d'une minceur extraordinaire, et ensuite des problèmes de colle aussi. Nous avons des secrets, alors là voilà encore un secret de fabrication, un secret de colle qui nous permet vraiment, vos 5000 denaires, de les faire tenir comme vous le souhaitez entre les mains de votre lecteur.
Alors, 550 collaborateurs, j'imagine que c'est là aussi une entreprise colossale pour...
Oui, j'ai été beaucoup aidé hein, par un comité auquel je rends beaucoup hommage, d'une dizaine de mes collègues pour les grands secteurs, chacun prenant un grand secteur, car notre idée à tout ce comité et à moi était d'une part de solliciter des collègues, des amis, des confrères avec qui nous nous sentions en confiance totale pour leur confier quelques grands chapitres, mais aussi de faire appel à des collaborateurs plus jeunes de façon à ce que, premièrement, ils soient bien au courant par leurs travaux, leurs thèses, leurs publications, de dernier point de la question, et en même temps leur donner, si vous voulez, la possibilité de se faire connaître. Ça, c'est quelque chose de très important, que ce groupe, ça ne soit pas seulement une consécration, mais enfin, que ce soit un groupe réel de travail, ça l'a été. Et pendant une dizaine d'années, c'était pour moi une grande joie, toutes les correspondances échangées avec tous nos collaborateurs.
Donc, sont aussi rassemblées ici plusieurs générations de chercheurs antiquisants, des plus jeunes aux plus confirmés. Est-ce que ces antiquisants viennent d'horizons différents? C'est-à-dire, est-ce que ce sont uniquement des chercheurs français, étrangers, européens?
Alors là, il y a effectivement des collègues étrangers qui ont bien voulu s'associer à nous. Par exemple, vous verrez les notices en droit. Dans le domaine juridique, nous avons eu la collaboration de savants étrangers. C'est d'ailleurs le responsable de ce secteur qui lui-même assurait les traductions. Par conséquent, nous sommes bien sûr que cela correspond à la vocation que nous souhaitions. Naturellement aussi, je vous disais, les classes d'âge sont différentes. Aussi, parce qu'il y a... Vous le savez fort bien, vous vous en doutez bien, dans les milieux érudits, il y a des écoles.
Oui.
Et nous n'avons voulu privilégier aucune école par rapport à d'autres. Donc, nous avons quelquefois même, ceux qui connaissent un petit peu nos milieux, disent « Mais c'est merveilleux, vous avez réussi à faire travailler dans le même volume un tel et un tel. » Ben oui, pourquoi ? Parce que tous les deux ont donné le meilleur d'eux-mêmes et il n'y a pas de raison que telle ou telle école, telle ou telle, ne soit pas représentée. Naturellement, les spécialités aussi sont extrêmement diverses,
oui,
puisque, comme vous l'avez
plusieurs
très bien souligné,
sont
c'est vraiment une vue complète de ce monde, à la fois dans son cadre, dans ses structures, dans son évolution historique, hein, oui, et aussi dans toutes les formes d'expression. Il y a des, par exemple, dans des grands soins, l'alimentation, par exemple.
On va revenir sur les entrées, mais ce travail-là de collaboration multiple, combien de temps a pris l'écriture de l'ouvrage? Tout à l'heure, vous parliez d'une dizaine d'années. Sur combien d'années, en fait, s'est étendu
réellement une dizaine d'années, je crois presque 12, car oui, dans les débuts, j'ai été moi-même, vous m'avez confié naturellement la partie égyptologique, et puis, malheureusement, le décès de mes amis Le Glais, puis Pietri ensuite, en fait, que je suis resté, de cette équipe constitutive des débuts, le seul qui pouvait un petit peu fédérer les différents collègues qui ont bien voulu ensuite se charger des différents secteurs, soit au point de vue chronologique, soit au point de vue des thèmes.
Alors, ce n'est pas le premier dictionnaire de l'Antiquité, mais celui-là a vraiment une particularité dans sa volonté justement d'être transdisciplinaire et de couvrir un champ chronologique très très large. Quel est ça, l'angle d'approche que vous avez souhaité?
Je crois qu'il est unique, vous savez.
Oui.
Nous avons naturellement en anglais, il y a, mais ce sont des dictionnaires partiels. Il y a un dictionnaire pour l'Égypte, il y a un autre dictionnaire pour la Mésopotamie, il y a des pour la Grèce, il y en a de multiples, il y a un dictionnaire de mythologie, par exemple, on me dira, ah, mais telle divinité ou telle figure allégorique de l'Antiquité grecque n'y est pas, mais il fallait faire un choix, c'est bien évident.
Bien sûr.
Et nous pouvons pas vraiment tout traiter, hein.
Et le plaisir ici, c'est justement de trouver la même, enfin, les divinités,
voilà,
dans les différentes civilisations.
Alors, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, il y a les quatre grands piliers, si j'ose dire.
Oui.
Mésopotamie, Égypte, Grèce et Rome. Mais j'ai attiré l'attention sur un domaine qui est le monde de la Bible. Parce que combien
parmi Levant, donc,
les gens plus jeunes savent qui est Moïse, qui est David, etc., d'une part, et d'autre part aussi une source extrêmement importante pour l'identité, ce sont les pères de l'Église. Et alors là, les pères de l'Église avaient des notices très substantielles sur des gens comme Isidore de Séville, par exemple, qui ont recueilli, naturellement dans une vue polémique et négative, le meilleur de l'Antiquité, mais ils existent. Et ensuite, en eux-mêmes aussi, ils constituent, ils sont tout de même parmi les sources essentielles de notre réflexion et de ce qui constitue l'homme occidental actuel.
Alors, quand on lit ce dictionnaire, parce que c'est vrai qu'on voyage très facilement d'une entrée à l'autre, on a parlé de 3200 entrées, ce qui paraît faramineux. Et je me suis demandé comment aviez-vous choisi, même en équipe. Il a fallu probablement trouver des critères,
faire des listes, faire des choix naturellement.
Quels sont les deux ou trois points qui ont été les plus difficiles, soit à contourner, soit au contraire.
Mais je dois dire, avons été généralement assez d'accord, si vous voulez. Quelquefois, certains de nos collègues se situaient vraiment à la très fine pointe d'une érudition, mais d'une érudition qui n'aurait pas peut-être été appréciée par tous les lecteurs. Par conséquent, on a dû laisser tomber un certain nombre de notices sur des personnages, sur des faits ou sur des perspectives qui n'étaient pas essentielles. Ensuite, quand on a défini des grands secteurs qui permettaient justement la comparaison pluridisciplinaire selon les différentes civilisations. Alors là, c'était extrêmement intéressant. Nous sommes rendus compte qu'il y avait des trous ou qu'il y avait des répétitions aussi. Quelquefois, nous avons d'ailleurs conservé quelques répétitions parce que les points de vue des auteurs étaient tellement
différents
que nous avons tenu...
Chacun a apporté...
Voilà, que l'on comprenne bien que c'est une science qui est en cours d'élaboration. Il n'y a rien de figé chez nous. Hein. C'est étonnant, mais dans le domaine de l'érudition, vous savez, chaque jour apporte des nouveautés, que ce soit par les fouilles, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, le domaine des fouilles, des enquêtes sur le terrain a été très privilégié, mais aussi, si vous voulez, des lectures de textes neuves et aussi l'apparition de points de vue différents. Ah, par exemple, sur la sexualité, il est évident qu'il y a 30 ans, un certain nombre de notices
ne figureraient pas
parce
ici.
Que ça serait dans un dictionnaire de l'érotisme, par exemple. Hein non.
Mais on trouve des entrées à adultère, adoption, âge de la vie, toute l'histoire
les sexualités, tous ces aspects-là doivent être peut-être pas traités en fond. Mais pour ça, il y a des bibliographies qui permettent d'aller aux endroits, aux dictionnaires, aux ouvrages de référence. Tous les grands ouvrages récents sur l'Antiquité sont abordés. Et c'est là qu'on peut se rendre compte justement des écoles ou des points de vue qui sont assez différents.
Alors, vous avez donc rencontré une adhésion immédiate de vos collègues, confrères, pour mener un tel projet. On voit que chacun y a participé avec... enthousiasme. Mais cette somme va-t-elle être traduite en anglais?
Sûrement beaucoup, parce que il n'y a pas en anglais,
malgré l'équivalent.
Toute la production américaine énorme, il n'y a pas d'équivalent. Parce que vous dites, pour tel domaine ou tel problème, il peut y avoir d'excellents livres. Mais de tout faire tenir en même temps, et c'est ça, je vous le disais tout à l'heure, vous avez dans les mains, vraiment, dans vos deux mains, tiennent ces 2400 pages qui vous permettent d'avoir un accès à quelques problèmes que
en
vous posiez pour l'Antiquité.
En 15 cm d'épaisseur.
Voilà. Ah, il est un peu gros pour mettre dans sa
poche. Dans sa version poche.
C'est la version poche suppose que l'on ait des poches sacoches, effectivement.
Voilà. Alors, à l'époque où vous avez commencé à vous lancer dans cette aventure, effectivement, plusieurs maisons d'édition sont lancées dans des dictionnaires. Il y a eu toute une série de dictionnaires, dictionnaires européens du 19e siècle, dictionnaires du Second Empire. Il y en a beaucoup. Au-delà du rassemblement, est-ce qu'il y avait un angle d'approche particulier ?
Oui, il fallait voir ces dictionnaires de l'Antiquité.
Oui.
Ce n'est pas un dictionnaire des Antiquités.
Oui.
Il existe un dictionnaire des Antiquités, c'est-à-dire de tous les objets, de tous les thèmes que l'on peut avoir des Antiquités. Ça existe, ça s'appelle le d'Arambert Salio. C'est une grande œuvre de la fin du 19e siècle, mais ça, je ne sais pas, 20 ou 25 volumes. Hein. Il ne s'agissait pas de faire les Antiquités,
oui,
mais de définir qu'est-ce que l'Antiquité.
Hein. Alors, comment la définissez-vous,
c'est beau l'Antique, voilà. C'est beau l'Antique. Mais il ne s'agissait pas, naturellement, de faire un traité de culture,
oui,
ou de faire un traité de droit, etc. Tout cela, il y a des possibilités, ça existe. D'ailleurs, il y a des dictionnaires. Il fallait rassembler le meilleur de ce que l'Antiquité nous a donné, et par conséquent l'accrocher à partir de ces mots-clés qui sont classés par l'ordre du dictionnaire. Alors, naturellement, il y a des rendez-vous qui sont cocasses, hein, des proximités auxquelles on ne s'attendrait pas. Mais c'est révélateur en soi, justement. Et je dois dire que, si vous voulez, nous considérons que c'est un livre destiné à des gens qui sont curieux.
Oui. Hein.
Ils sont curieux, pas seulement sur un point donné, mais ils ont une curiosité générale. C'est-à-dire que leur œil est attiré, l'attention, ils ouvrent ça peut-être au hasard. Hein. Un soir où ils ont quelques heures devant eux, ils ouvrent et ils partent en voyage. Et par conséquent, si vous voulez, c'est dans cette perspective de la curiosité et répondre aux curiosités, les plus diverses, faire naître une curiosité, parce que les gens n'auront jamais réfléchi qu'il y avait un problème qui se posait et qu'il avait été résolu pendant ces 5 millénaires de telle ou telle façon.
Alors, peut-on revenir un petit peu sur les limites chronologiques justement de cette antiquité que vous avez choisi? Très large.
Étendu, oui.
Étendu par rapport aux classifications habituelles que peuvent avoir, oui, les gens. Est-ce que vous pourriez expliquer pour les non-historiens?
Voilà. L'histoire, comme vous le savez, la définition, il y a histoire à partir du moment qu'il y a des monuments écrits. Plus anciens étant, là on se bat, naturellement, c'est le querelle d'école, tout ça.
Oui.
Un peu avant le 3e millénaire, on constate en Mésopotamie et en Égypte la naissance d'un système d'écriture. La parole se trouve soudain figée et notée. Hein. Ça, c'est un fait. C'est le début de l'histoire. Avant, c'est la préhistoire. Alors, nous n'avons pas sacrifié la préhistoire. Il y a des dictionnaires de préhistoire, naturellement, mais nous avons tenu à ce qu'elle soit présente. C'est-à-dire que nous avons pris un homo qui est affronté au problème de la sédentarisation, avec les problèmes que ça entraîne sur l'élevage, les cultures, la céramique et l'habitat. Hein. Par conséquent, si vous voulez, nous partons de ce qu'on appelle la néolithisation. Hein. Nous partons du néolithique, sans nous y attarder plus, parce que nous en citons les ouvrages de référence qu'il faut aller consulter. Il y en a un pour l'Égypte, il y en a 2 ou 3 pour la Mésopotamie. Voilà. Ça, c'est la préhistoire. Alors donc, nous prenons le développement historique. Alors pour la fin, c'est plus complexe. Généralement, si vous voulez, l'Antiquité, on dit c'est la chute de Rome, 476.
Voilà, c'est ce que nous
le dernier, si vous voulez, l'histoire romaine, ça va depuis Rémus et Romulus d'une part, un bout, et l'autre bout, Romulus Augustule. Et Romulus Augustule, 476. 476, ça nous laissait de côté les pères de l'Église, ça nous laissait de côté des règnes comme celui de Justinien.
Oui.
Et surtout, nous avons pensé nous approcher, parce qu'il y a quand même là une date clé, c'est l'islam, l'égir, hein, c'est le début du 7e siècle, 630. Hein. Par conséquent, nous sommes approchés de cela, naturellement en consacrant, en n'entrant pas dans le détail de ce qu'on appelle les battants, les temps tardifs, on appelle ça les spätantikes, l'antiquité tardive. Mais oui. L'antiquité tardive, elle est chez nous, hein, de façon à ce qu'ensuite on s'embarque dans le Moyen-Âge, c'est autre chose. Mais nous faisons le point, par conséquent, largement, si vous voulez, vous voyez, les limites chronologiques sont très vastes.
Oui.
Alors au point de vue géographique, c'est bien évident.
J'ai on va de la préhistoire au règne du Justinien.
Il y a quelques comptes rendus qui ont dit, mais on trouve pas, on ne retrouve rien sur le bouddhisme. On va aller chercher dans un dictionnaire de l'Extrême-Orient. Hein. J'espère qu'il y aura un
dictionnaire.
Un jour un dictionnaire de l'Extrême-Orient qui nous permettra de régler les problèmes de l'hindouisme, du bouddhisme. Là, c'est pas notre affaire. Notre affaire, c'est l'antiquité telle qu'un honnête homme l'a définie à l'heure actuelle. C'est-à-dire de trouver finalement, et je reviens à ce qui est notre finalité profonde, de donner un sens à notre homme contemporain. Hein. C'est-à-dire, finalement, c'est autour de la Méditerranée que se fait notre destin.
Alors justement, le point commun de ces civilisations, c'est peut-être la Méditerranée,
Mare Nostrum. Notre mer commune à tous.
Voilà, et dans le dictionnaire de l'Antiquité, je suis allée voir s'il y avait un article Méditerranée, j'ai trouvé « à mer ». Et là, c'est justement révélateur de la façon dont le dictionnaire est conçu. On va trouver une entrée « à mer » entre parenthèses « Égypte », écrite par Jürgen Ossin. Je ne prononce peut-être pas très bien, excusez-moi. Qui nous explique l'attention que les Égyptiens portaient à la mer, mais on trouve aussi également à l'entrée mer, entre parenthèses cette fois Levant, un article de Pierre Bordreuil qui rend compte du rôle de la Méditerranée joué dans l'abîme, de sa représentation pour les Hébreux, et ou pour les habitants dans le mythe d'Ougarit également, au deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Et puis on trouve également à mer, toujours, entre parenthèses, cette fois en Mésopotamie, un article de Maria Gracia Massetti-Rouault qui nous explique que la Méditerranée était appelée mer supérieure car elle donnait à ce moment-là les limites du monde, que le golfe Persique était baptisé, pas forcément dans les mêmes termes que la traduction exacte, mais mer inférieure. Mais enfin, dans les trois cas, là, on voit comment ces différentes civilisations se représentaient et considéraient donc un élément central de leur géographie, de leur espace. Et c'est vrai qu'on apprécie de naviguer au fil des entrées, ne serait-ce qu'en sur un seul mot, celui-là. Voilà. Et là, le lecteur est surpris et je ne parle même pas des corellas. on va également en parler, mais pour juste donner une petite idée au lecteur, si je rassemble quelques entrées prises dans la lettre A, simplement. Ambre, Adoption, Empire d'Akkad, Âge de la Vie, Âge de Bronze, Alexandre le Grand, Alexandrie, Amphore, Amman, Amphithéâtre, Anatolie, Anaximène du Millet, Ange, Animal, dans la pensée grecque, Antioche, Antoinienne. Bon, on va s'arrêter là. Mais archéologie, astronomie, Auctoritas, endroit romain.
Un petit peu un inventaire à la Prévert.
Voilà, mais là on est à chaque fois dans une invitation au voyage, mais on voit aussi que il y a eu un choix à la fois sur des figures illustres, des événements, des villes, comme on disait tout à l'heure, des disciplines. Mais là, vraiment, on balaie un champ très très large des disciplines qui reflètent aussi la tendance actuelle de la recherche et des formations qui sont offertes aux étudiants. Vous souhaitiez dans cet ouvrage, je crois, un dialogue avec les anciens, une antiquité revivifiée.
Oui.
Pouvez-vous détailler et expliquer ces formules que vous avez choisies, s'il vous plaît ?
Bien, écoutez, comme je vous le disais, nous souhaiterions nous adresser à un public de gens curieux. Et par conséquent, tout dépend déjà de leur formation de base, de leurs préférences, de leurs tendances profondes. Et à partir de là, nous pensons qu'il faut éveiller leur curiosité et de leur donner des solutions à l'intérieur de ce qui les intéresse le plus, mais aussi leur permettre, leur donner le sentiment que toute notre culture occidentale, car finalement, de cette visée, c'est une visée culturelle. C'était la mienne. J'ai la charge d'une académie qui n'a pas qui se présente franchement comme une académie d'érudition. Oui. Hein, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, n'importe comment. Il s'agit pour nous d'être les plus exacts possibles et vis-à-vis de ce qui subsiste de l'Antiquité, d'essayer de l'analyser, que ce soit du point de vue de l'archéologie, que ce soit du point de vue de la linguistique, que ce soit au point de vue de l'histoire des idées. Tous ces éléments-là doivent être pris en considération pour permettre de reconstruire un ensemble. Alors, voilà la perspective. C'est une perspective donc d'ordre culturel, et je crois que dans notre monde actuel, si nous voulons, qui est si tellement se présente d'une manière tellement incertaine, l'homme contemporain ne peut qu'être angoissé devant cette accélération du mouvement qui lui fait surgir devant lui brusquement des problèmes auxquels il ne pensait pas devoir être affronté, et bien qu'il se retourne vers les racines et qu'il voit comment les choses se sont, comment on est arrivé là, et comment aussi se situaient les problèmes dans des contextes culturels totalement les uns des autres. Je crois que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, la diversité.
Jean Leclan, je vous remercie de nous avoir présenté cette passionnante vision comparatiste et évolutive. Rappelons que pour s'orienter, le lecteur dispose de différents outils qui sont autant de cheminements possibles, hein, l'index en fin d'ouvrage, les corrélages à la fin de chaque article pour bondir d'un mot à l'autre, une bibliographie à la fin de chaque entrée. On dit qu'un dictionnaire ne se lit pas mais se consulte, et bien celui-ci par la qualité de ses corrélats, du nombre de ses articles, de ses auteurs, rend l'Antiquité accessible à nos contemporains. Alors je vous invite tous à ouvrir ce dictionnaire et à vous embarquer pour de longs voyages au fil des pages.